En ce 18 octobre 1996, c'est la fête de Saint-Luc, l'évangéliste. C'est l'un des hommes qui a le plus influencé finalement par ses écrits, puisqu'il a écrit ce troisième évangile, comme on dit souvent, cette vie de Jésus, mais c'est plus qu'une vie de Jésus. Eh bien, il a plus influencé le monde depuis 2000 ans que la plupart des hommes et des écrivains. Son texte est un des plus grands textes de l'histoire de l'humanité. Je n'exagère pas en disant ça. D'ailleurs, on vient d'entendre à la radio de Radio Ville-Marie le témoignage, entre autres, d'Albert Jacquard qui disait que comme programme de vie, on ne pouvait pas faire mieux que le programme de vie de Jésus. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint-Luc est un Syrien. Un Syrien et un médecin. Il était originaire d'Antioche, encore un autre, comme Saint-Ignace d'Antioche et tant d'autres, de cette grande ville qui est complètement disparue, qui est maintenant sur le territoire de la Turquie depuis l'après-Grande Guerre, là, quand on s'est partagé certains territoires à travers l'Europe. Donc, il était médecin et c'était aussi un homme de lettres. C'était un homme qui connaissait très bien la langue grecque. Il s'est converti lors du passage de Saint-Paul à Troas. Et on raconte qu'à Jérusalem, il a vraisemblablement connu les apôtres. Il a vraisemblablement connu la Sainte Vierge qui lui a raconté des tas d'événements qu'il rapporte d'ailleurs, je vous en reparlerai. Ça a donc inspiré son texte du troisième évangile. Je signale tout de suite qu'il est aussi l'auteur des Actes des Apôtres, qui raconte les débuts de l'Église jusqu'en l'an environ 62. C'est le tout début de l'Église, avant même la mort de Saint Paul. C'est le cardinal Daniels, Gottfried Daniels, dans un ouvrage publié à l'archevêché de Malines-Bruxelles, évidemment en Belgique, « Le feu de l'esprit », et qui raconte ce qui suit. Je trouve que c'est très intéressant au début de cette émission sur les saints et sur Saint-Luc. L'annonce de l'Évangile ne pourra se faire sans le témoignage des saints, dit le cardinal. Les saints sont un don que Dieu fait à son Église, un don gratuit, pour lequel nous ne pouvons que prier, car il n'existe ni école ni méthode pour la formation des saints. Ceux-ci annoncent l'Évangile surtout par le témoignage muet de leur vie. Ils rayonnent le Christ. Ce qui fait le rayonnement des saints, c'est sans doute la profondeur de leur foi et la fermeté de leur espérance, et plus encore l'intensité de leur amour. Oui, l'intensité de leur amour, c'est ça qui fait les saints. L'amour porte son fruit, comme une maman porte son enfant, sans précipitation, patiemment et avec tendresse, jusqu'au jour de sa naissance. Mais oui, elle porte son enfant, c'est pas autre chose qu'un enfant qu'elle porte dans son sein. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est autre chose et qu'on peut éliminer tout ça, comme si c'était une maladie. Je répète donc cette parole, l'amour porte son fruit comme une maman porte son enfant, sans précipitation, patiemment et avec tendresse, jusqu'au jour de la naissance. C'est de cette manière que Marie fut évangélisatrice, c'est de cette manière encore que moines et moniales évangélisent. Et ainsi l'ont fait par exemple toutes les carmélites depuis Thérèse d'Avila, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, et Thérèse de Lisieux, dont je vous ai parlé au début du mois, jusqu'à Edith Stein, dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Les saints, termine le cardinal Daniels, les saints, y compris ceux qui vivent leur sainteté dans l'anonymat de leur existence quotidienne, sont plus indispensables à l'annonce de l'Évangile que les grands prédicateurs, car l'amour est le premier de tous les charismes. L'amour est le premier de tous les charismes. C'est ce qu'on trouve dans l'Évangile de Saint-Luc. C'est un Évangile basé sur la charité chrétienne. C'est si vrai que ces textes ont frappé des incroyants en Italie, à ce point que le quotidien italien L'Unità, qui a été fondé par un grand théoricien du Parti communiste, le communiste italien Antonio Gramsci, eh bien ce quotidien a publié les évangiles. Parce que, disent-ils, ces directeurs du journal, c'est les évangiles qui appartiennent à l'humanité tout entière. Et ce journal disait qu'en publiant les évangiles, tout cela va susciter évidemment des commentaires et il y aura quelques polémiques. Ils ont écrit ça en première page, en citant un ancien responsable du Parti travailliste anglais, Stafford Cripps. Il disait « La démocratie n'aurait pas pu apparaître sur d'autres bases que chrétiennes. » C'est pour ça que je vous disais la grande influence de Saint-Luc sur le monde entier. « La démocratie n'aurait pas pu apparaître sur d'autres bases que chrétiennes. » Alors, ils ont décidé de publier Saint-Marc et Saint-Luc avec une préface du cardinal Carlo Martini, archevêque de Milan, dont on parle un peu, assez souvent, comme le prochain pape. Tout ça a été publié dans la presse en 1994. Le vocabulaire de Saint-Luc, je vous ai dit que c'était un vocabulaire de lettré, d'un homme instruit. On peut relever, d'ailleurs, dans son évangile et dans les actes des apôtres, 750 mots qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, pour le seul Évangile, il y a 312 vocables originaux, comme on dit. Donc, c'est un professionnel. Mais c'est un professionnel aussi au plan médical. Je salue donc les médecins qui m'écoutent, particulièrement un ami médecin qui m'écoute tous les jours. Il y a trois exemples de ça. Il y a le mot guérison, iasis, qu'on trouve dans l'Évangile de Saint-Luc au chapitre 13, dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, qui est unique dans le Nouveau Testament. Il y a aussi le verbe guérir, iastai, qui est employé 12 fois dans l'Évangile de Luc, contre 2 fois seulement dans Saint-Matthieu, puis une fois chez Marc. Donc, il insiste beaucoup sur l'aspect de la guérison qui nous vient de Jésus. Puis il y a aussi le verbe être en bonne santé, hygiénein, qu'on retrouve donc au chapitre 5, 7 et 15 dans l'Évangile de Saint-Luc. C'est le plus moderne des évangélistes Saint-Luc, par son style, puis par sa présentation des événements, par la présentation aussi des magnifiques paraboles de Jésus, comme celle du bon samaritain. Celle dite de l'enfant prodigue ou de l'amour miséricordieux de Dieu. C'est un familier, lui, croit-on, du grec dialectal. Et il peut imiter la Bible grecque qu'il connaissait sans doute, qui est parsemée de tournures juives, sémitiques. Mais il connaît pas tellement la Palestine, c'est plutôt un passionné de théologie, Saint-Luc. D'ailleurs, ses récits, c'est lui qui raconte beaucoup la naissance de Jésus, la naissance de Saint-Jean-Baptiste, hein, puis il fait des parallèles. C'est très intéressant quand on étudie ça vraiment. Et les récits, donc, de l'enfance de Jésus apparaissent comme les plus nobles perles de l'art narratif, disent des critiques, et en particulier Renan, qui était ce grand ennemi du christianisme, dans un sens, et admirait beaucoup Saint-Luc, comme tant d'incroyants qui admirent beaucoup le texte de Saint-Luc. On reste frappé par la tendresse qui habite ce texte, la tendresse qu'il y a envers les pauvres, hein, envers les femmes aussi, puis envers les pécheurs. D'ailleurs, il est le seul à rapporter cette anecdote du bon samaritain dont je vous ai mentionné tout à l'heure, pas compter la parabole de l'enfant prodigue, Père miséricordieux. Et puis, il parle aussi de l'entourage féminin de Jésus. Oh, c'est pas tellement long, c'est 3 versets au début du chapitre 8. C'est saint Ambroise, qui est mort en 397, qui a fait un commentaire de l'évangile de saint Luc. Et il dit ces quelques paroles qui sont très belles. D'après Luc, dit saint Ambroise, d'après Luc, Jésus invite les pauvres, les handicapés, les aveugles. Aux yeux du maître, Jésus, les infirmités corporelles ne sont nullement un motif d'exclusion du royaume, comme on pouvait penser un peu à l'époque, on avait des tabous. Vous savez, c'est une longue éducation de l'humanité qu'a faite le christianisme. Et saint Ambroise, donc, qui était archevêque de Milan, nous dit ensuite, Jésus nous dispense leçon de tendresse. Invitez les pauvres. N'est-ce pas fuir la sécheresse du cœur qui calcule si souvent ses invitations avec l'espoir d'un rendu? Combien de fois, moi-même, on invite pour être invité, on donne pour qu'on nous donne, on pense toujours à des choses comme celle-là. Mais dans l'affaire du bon samaritain que vous connaissez, je vais vous la lire tout à l'heure. Eh bien, Jésus invite vraiment tout le monde, nous tous qui sommes des pauvres au fond, à entendre son message. Et c'est saint Luc qui a été le grand porte-parole de cette pensée, avec évidemment saint Matthieu, saint Marc et saint Jean. Vous savez qu'on représente saint Luc sous le symbole d'un taureau. Pouvez-vous demander pourquoi, hein? Quand on va à la cathédrale de Montréal, dans le centre de la cathédrale, juste en haut, là, à la base du dôme, de la coupole, il y a 4 représentations. Et puis, l'une, c'est le taureau. Ça représente Saint-Luc. Pourquoi? Parce que, au début de son évangile, il parle du sacrifice qui est fait au temple par le prêtre Zacharie à l'occasion de la naissance de saint Jean-Baptiste. Et je vous parlerai bientôt de saint Zacharie et de sa femme, sainte Élisabeth. En tout cas, il est certain, d'après certains auteurs récents, mais très discutés, il est certain que Marc, Matthieu et les documents utilisés par Luc ont été rédigés dans une langue sémitique et il est probable que cette langue sémitique était l'hébreu plutôt que l'araméen. C'est soutenu par certains auteurs, c'est discuté par d'autres. Et si l'on tient compte des indications de la deuxième épître, là, aux Corinthiens de saint Paul, on dit qu'il n'est pas vraisemblable de placer la rédaction de Luc en grec plus tard que les années 50-53. C'est un point de vue qui n'est pas soutenu par tout le monde. Il est vraisemblable, dit toujours Jean Carmignac, que le traducteur grec de Matthieu a utilisé le texte de Luc. Alors, on voit que les discussions autour de la date sont très, très, très contradictoire. Il y a même un auteur protestant, François Bovon, qui a publié l'Évangile selon saint Luc chez Labor et Fides en 1991 et qui était annoncé dans la revue du diocèse de Montréal, qui dit que saint Luc aurait vécu une couple de générations après saint Paul, qui aurait donc écrit ça vers l'an 180. Alors, on va de l'an 150 à l'an 180, mais je penche plutôt, moi, vers l'an 70 environ, ou un peu plus tôt. d'après toutes les lectures que j'ai pu faire. Et nous verrons tout à l'heure comment lire l'évangile de Saint-Luc et qu'est-ce qu'on peut y chercher. Saint-Luc se présente donc à nous dans certaines représentations avec dans ses mains le troisième évangile puis les actes des apôtres. Et il y a chanté la bonté de Dieu. Puis aussi la jeunesse de cette église missionnaire, c'est la lecture qu'on fait aujourd'hui d'une petite partie de son évangile à la messe, à travers le monde entier, dans l'église catholique. C'est un maître, Saint-Luc. Et pourtant, il reste souvent dans la pénombre. On ne sait pas au juste vraiment ce qui lui est arrivé. Mais on sait qu'il est né païen, donc comme je vous ai dit, à Antioche, et qu'il s'est converti au cours de sa seconde mission. Paul le prend d'ailleurs avec lui quelque temps vers l'an 49. Donc environ, on peut dire, pas loin de 20 ans après la mort de Jésus. Et plusieurs années après, il retrouve Saint Paul à Philippe, et puis Saint Paul le garde auprès de lui. Et quand Saint Paul a été exécuté à Rome, bien Saint Luc a quitté la ville de Rome. Puis là, on perd sa trace. Oh, il y a toutes sortes de légendes autour de ce qui lui est arrivé, mais c'est inutile de s'étendre là-dessus. On croit retrouver ses reliques ici et là, un peu partout, même en Italie. Mais tout ça n'est pas sûr. La culture, je vous ai dit, de Saint-Luc, fait vraiment honneur, on peut dire, à la civilisation grecque. Hein, parce qu'il écrivait en grec avec une grande dextérité, comme je vous l'ai montré un peu tout à l'heure. Et en bon médecin, c'est un bon observateur. Hein, il sait décrire, puis il est bon et doux. Il a d'ailleurs tellement insisté sur la bonté, puis la douceur de Jésus, puis de son Père, de notre Père céleste, comme on dit, qu'on lui doit cette belle parabole que l'on retrouve au chapitre 15 de son évangile, à partir du 11e verset. Oh, tiens, je pense que je vais vous lire cet évangile, parce que c'est tellement l'un des plus grands textes de l'histoire de l'humanité qu'il serait dommage de passer outre. C'est pas si long après tout. Hein. Un homme avait deux fils, et le plus jeune lui dit, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et puis il partit pour un pays lointain, et il y gaspilla toute sa fortune en vivant dans la débauche. Quand il eut tout dépensé, une grande famine est survenue dans cette région. Et alors il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs pour garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des gousses que mangeaient les porcs. Mais personne ne lui en donnait. Alors, il réfléchit, puis il s'est dit, « Combien de journaliers de mon père ont du pain en abondance à la maison, et moi, je suis ici à mourir de faim. Je partirai d'ici, je retournerai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre vous. » Je ne suis plus digne d'être appelé votre fils. Traitez-moi comme l'un de vos serviteurs. » Alors il partit donc, ajoute Jésus, et s'en retourna auprès de son père. Il était encore loin quand son père l'aperçut. Moi, ça se fait qu'il était encore loin quand son père l'aperçut. C'est que son père l'attendait tous les jours. C'est ça que ça veut dire. Probablement sur le haut d'une colline, son père est tellement désireux du retour de son fils que tous les jours il regarde au loin si son fils revient. Alors donc, il était encore loin quand son père l'aperçut. Tout ému et pris de pitié, le père courut à sa rencontre. Imaginez-vous un père chez les Juifs comme ça, dans le autour du bassin méditerranéen, autour de la Méditerranée, qui est si mou dans son amour, qu'il va jusqu'à aimer son fils d'un amour tellement débordant qu'il court vers son fils coupable. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Tout ému, mais pris de pitié, le père courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils a encore rien dit. Il n'a pas demandé pardon. Il s'est pas jeté à genoux. Son père court et l'embrasse. Quel père plein d'amour, hein? Le fils lui dit après coup, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre vous. Je ne suis plus digne d'être appelé votre fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-la. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Et amenez le veau gras et tuez-le. Faisons un festin et réjouissons-nous. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Que c'est beau. C'est tellement beau. Et ils commencèrent à faire fête. Et Jésus termine en disant, son fils aîné était au champ. À son retour, comme il approchait de la maison, il entendit des chants et des danses. Et appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que signifiait ce bruit. Et le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et refusa d'entrer, et son père sortit pour l'en prier. Mais il répondit, « Voici tant d'années que je te sers sans désobéissance, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais ton fils que voilà revient, après avoir gaspillé ton bien avec des femmes, et te fait tuer pour lui le veau gras ?»« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. » Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien être heureux et se réjouir, puisque ton frère était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. C'est tellement beau ce texte-là que je peux difficilement lire ça sans être ému. En somme, Luc, en écrivant tout ça, il veut, si on peut dire, transformer l'histoire de l'humanité. Il veut transformer la façon de raconter une vie de quelqu'un. Il rapporte les choses les plus belles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Puis il veut rendre aimable au grand public païen auquel il s'adresse la bonne volonté de l'Église naissante. Et surtout, l'immense bonté de son fondateur, Jésus. L'évangile, d'après les bénédictins de Paris, serait paru vers l'an 60, après donc celui de Marc. Et les actes auraient été composés, les actes des apôtres, entre 62 et 67, très probablement. Le message de Luc, donc, c'est quoi? C'est un message de salut, de miséricorde, de pardon. C'est ça qu'on trouve dans ce bel évangile. Et d'ailleurs, c'est Dante, je vous en ai déjà parlé de Dante, et j'y reviendrai un jour. Dante dit que Luc est le scribe, ou l'auteur, ou l'écrivain, si vous voulez, de la mansuétude du Christ, de la bonté de Jésus. Mais si Dieu, dans l'évangile de Luc, semble bon jusqu'à la faiblesse, comme je vous le disais presque tout à l'heure, la faiblesse pour le pécheur, c'est pour réaliser le redressement du pécheur. Il fait pas ça simplement parce qu'il a, il est mou, pas du tout. Dieu veut redresser le pécheur et le sortir du malheur. Et c'est toujours pénible de sortir du malheur du péché. C'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas de guérison sans une certaine ascèse, et souvent une grande ascèse. Il le dit, Jésus, dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 14. Quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il faut renoncer à tout ce qu'on possède, pas nécessairement de le vendre et de le donner comme ça, du jour au lendemain. Je vous rappelle l'anecdote d'un homme qui possédait une usine à Montréal. et qui s'est rendu voir Mère Teresa, et qui voulait tout vendre et tout donner aux pauvres. Et Mère Teresa lui a dit, mais non, la société a besoin de bons patrons chrétiens. Gardez votre usine et continuez à l'administrer chrétiennement. Alors Luc, Saint Luc, c'est un ami. Un ami pour nous tous, mais aussi un ami de l'humanisme parfait. Il nous invite très aimablement à devenir, par humilité, devenir quoi? Des surhommes. Bien oui, c'est pas le surhomme de Nietzsche qui m'intéresse, c'est le surhomme de Jésus, celui qui nous est rapporté par Saint Luc. C'est là qu'est le bonheur, c'est là qu'est le dépassement, et c'est là qu'est la joie, dans cette humilité des vrais surhommes que sont les saints. Saint Luc est vraiment l'un des plus grands hommes de toute l'histoire de l'humanité. Quand on lit cet évangile, on voit avec quelle intelligence il a écrit, avec quelle profondeur il a été simple en rapportant les événements, en rapportant les choses. Et quand on lit les Actes des apôtres, c'est le même sentiment qu'on éprouve. Et ça fait longtemps qu'on éprouve ce sentiment. C'est saint Irénée de Lyon qui est mort en l'an 202, c'est pas d'aujourd'hui. Il est mort en l'an 202, il a vécu donc au deuxième siècle. Il raconte que saint Luc rapporte dans les Actes au chapitre 16, oui, verset 10, il dit, « Nous avons cherché à rejoindre la Macédoine, ayant compris que Jésus nous appelait à y annoncer l'Évangile. » Nous, c'est saint Paul et lui. Luc raconte dans le détail tout leur voyage, jusqu'à Philippe, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une ville, ça. Bon, il a écrit, saint Paul a écrit aux Philippiens, hein, c'est les habitants de la ville de Philippe. Il raconte aussi comment ils ont annoncé la parole de Dieu. Il rapporte comment s'est déroulé tout le périple de Paul. Il précise autant qu'il y est possible les lieux, les villes traversées, les étapes de leur voyage. C'est très intéressant à lire, hein, jusqu'à leur montée à Jérusalem. On lit pas beaucoup les Actes des apôtres, c'est bien dommage. Et saint Luc nous rapporte enfin comment Paul y a été arrêté, chargé de chaînes et envoyé à Rome. Or, c'est un récit très, très, très émouvant, ça. C'est bouleversant, hein? Bouleversant. Tiens, je vais vous en lire un peu. À notre arrivée à Jérusalem, écrit Saint-Luc, les frères nous reçurent avec joie, et le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait parmi les païens, par son ministère. À ce récit, ils rendirent gloire à Dieu. La semaine touchait à sa fin quand des Juifs venus d'Asie aperçurent Paul dans le temple. Ils ameutèrent la foule et mirent la main sur lui en criant, « Homme d'Israël, au secours, voilà l'homme qui prêche à tous et partout contre le peuple, contre la loi, c'est-à-dire la Torah, n'est-ce pas la loi, et contre le temple. Il a même profané le saint lieu en y introduisant des Grecs. » C'était vraiment très dangereux de faire ce que saint Paul faisait. Vraiment, il était juif, mais il ne respectait pas les susceptibilités de ses anciens coreligionnaires, comme on dit. Et saint Luc raconte que les Juifs avaient en effet aperçu en ville avec lui Trophime d'Éphèse, et ils croyaient que Paul l'avait amené au temple. Toute la ville fut émue. Et le peuple accourut de toutes parts, ils se saisirent de Paul, et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte, des Romains, que tout Jérusalem était en pleine agitation. Aussitôt, prenant avec lui soldats et centurions, il courut vers les manifestants. À la vue du tribun et des soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, mit la main sur lui et le fit lier de deux chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Et la foule poussait les cris les plus divers. Ne pouvant donc rien tirer au clair à cause du tumulte, le tribun fit conduire Paul à l'intérieur de la forteresse. Et quand Paul parvint aux escaliers, les soldats durent le porter, tant était grande la fureur de la foule. Le peuple suivait en masse, au cri de « à mort hein. ». On lit tout ça, puis on dit « mon Dieu, on dirait un film ». C'est écrit avec vraiment beaucoup de qualité. Hein. C'est très, très, très intéressant. Et alors donc, il est chargé de chaînes, saint Paul, il est envoyé à Rome, et saint Irénée nous dit « Il nous renate les détails de la traversée, de leur naufrage, comment ils furent sauvés de la mort et où ils accostèrent. » Ça vous donne pas le goût de lire ça, les Actes des apôtres, quand on lit ce que dit saint Irénée? Et saint Irénée ajoute, il dit « Nous apprenons de lui comment ils parvinrent à Pouzole et de là à Rome. Présent lui-même à tous ces événements, y ayant pris part, Luc nous les a transmis avec précision, dit saint Irénée. On ne trouvera chez lui ni mensonge ni vantardise. Tous les faits relatés étaient évidents. Que Luc ait été le compagnon et collaborateur de Paul, c'est ce que ce dernier affirme dans ses lettres. » Mais oui, c'est dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4. C'est ce que saint Paul écrit. Il dit « Démas m'a abandonné, Crescence est parti pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc seul est avec moi. » Et saint Irénée conclut en disant « Luc ne s'est donc jamais séparé de l'apôtre. Il a reçu de lui la mission de rédiger cet évangile qu'il a annoncé avec lui. Qui rejette son témoignage refuse par le fait même l'évangile dont on prétend être le disciple. » Comment rejeter un évangile aussi puissant, des textes comme les Actes des apôtres aussi merveilleux? Saint Luc, je vous ai dit, était le patron des médecins, mais il est aussi le patron des peintres. Pourquoi? Parce qu'il y a une légende qui entoure sa vie. C'est une légende. Cette légende veut qu'il ait fait le portrait de la Vierge Marie. Mais c'est vrai en ce sens que saint Luc a fait le portrait de la Vierge Marie un peu dans son évangile. Il est le seul à nous dire certaines choses importantes sur Notre-Dame. Par exemple, cette réponse de Jésus au cri d'une femme. Souvenez cette femme qui dit « Heureux les flancs qui t'ont porté et les seins qui t'ont allaité. » Il répond, chose étrange, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. » Mais oui, les honneurs, les dons que l'on a reçus, font pas de nous quelqu'un d'autre, pas du tout. Nous sommes finalement que un pauvre petit être qui retournera en poussière. C'est tout. Ce qui fait de nous quelqu'un qui plaît à Dieu, quelqu'un qui devient l'ami de Dieu, quelqu'un qui devient le fils, la fille de Dieu, quelqu'un qui devient le grand ami de Jésus, c'est celui qui se laisse pénétrer, nourrir par l'Esprit Saint. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. C'est dans saint Luc au chapitre 11. C'est une espèce d'écho au fond de ce que Jésus dit ailleurs dans l'évangile de saint Luc au chapitre 8, un peu plus tôt. « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » C'est ce que ressentent profondément, je dirais, ceux qui se joignent à une communauté ou à un groupe de laïcs ardents pour étudier l'Écriture et prier ensemble. C'est ceux qui font partie de groupes pour s'occuper d'un resto pop ou d'une autre organisation ou travailler à l'accueil Bono et qui vivent dans la fraternité, la miséricorde, la charité, le don d'eux-mêmes. Ceux-là ont des frères. Parce que leurs frères, c'est qui? Jésus le dit, je vous le répète, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Que saint Luc nous rapporte ces belles paroles, ça ne peut que nous réjouir. Nous réjouir jusqu'au fond de nous-mêmes. Quelle merveille! Quelle merveille qu'il ait écrit ces choses splendides. Le fait qui déclenche tout chez saint Luc, c'est qu'il sait bien que Jésus, le Christ, est toujours vivant. il est ressuscité. Et avant de raconter la vie du Sauveur, Luc doit évidemment se convertir. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est converti. Il a rencontré quelqu'un, Saint Paul, qui a écrit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Ne pensons pas convertir qui que ce soit, si on ne laisse pas au moins un peu dans un coin de notre cœur vivre Jésus, alors qu'il faudrait le faire vivre complètement, comme dit Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Si nous étions comme Saint Paul, nous convertirions beaucoup de gens, non pas pour le plaisir de convertir et d'ajouter des conversions ou des membres à l'Église, non, pour libérer et leur permettre, dans la joie, de rencontrer le Christ Jésus vivant. Alors, tous les jours, pendant plus de 15 ans, Luc a vécu un contact assidu avec cette réalité merveilleuse qu'est le Christ. Le Christ qu'il trouvait dans la parole de Dieu, dans l'Eucharistie, comme nous pouvons le trouver si nous allons à la messe et nous écoutons vraiment la parole de Dieu et que nous participons vraiment à l'Eucharistie. Bien, c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait aussi en priant pendant ses longs et périlleux voyages en prison, partout où il se rend avec Paul, dans chaque demeure, dans ses communautés chrétiennes éparpillées en Asie mineure, en Europe, à Jérusalem, à Antioche. Mais c'est le même phénomène qu'il contemple et approfondit. Une grande famille, des gens si disparates avec un dénominateur commun, quoi, la vie du Christ qui les transforme. Oui, la vie du Christ qui les transforme. C'est ce qu'écrit le curé de Saint-Ambroise dans L'Homme Nouveau, il y a quelques mois à peine. Et il ajoute, inspiré par l'Esprit du Christ, Luc prend des notes. Il rassemble du matériel. Les textes de Marc et de Matthieu sont disponibles depuis 10 à 20 ans. Il rencontre la mère de Jésus, il rencontre les apôtres et les autres témoins oculaires et l'historien de Dieu qu'est Luc. Contemple l'Église dans sa marche vers Jérusalem, la cité sainte. Et alors, il est pris d'une foi profonde et il adore le prophète Jésus qui est le Sauveur. Il trace des traits ineffables de Marie. Il insiste sur la vie de son maître Jésus. Il insiste sur le détachement, la prière, la miséricorde de Jésus et aussi la joie de Jésus. On dit qu'il a été le peintre de Marie. Eh bien, il n'a pas voulu créer une théologie fiction. Parce que Saint Paul l'aurait immédiatement condamné, celui qu'il appelait son médecin bien-aimé. Mais oui, c'est comme ça que Saint Paul appelait Luc, mon médecin bien-aimé. Puis dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4. Et dans l'Épître aux Galates, il est bien dit, « Eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » C'est dire que Saint-Luc prêchait l'Évangile que Saint-Paul lui avait enseigné. Grâce à sa foi et à ses qualités humaines, on peut dire que Luc est l'historien de Jésus-Christ, qui est le même hier et aujourd'hui et qui le sera à jamais, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux. Le Christ n'est pas une expérience à mesure humaine. Ben non, c'est pas à mesure humaine. L'exégète qui renonce à cette lumière ne peut le saisir, car ce qui a été écrit dans les évangiles, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, ça, ce qui a été écrit dans les évangiles l'a été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, pour parler comme les experts, on peut dire que le dur noyau de Luc, c'est Jésus, le Christ. C'est ça qui l'intéresse. C'est lui qui l'intéresse. Seule la foi, qui est une lumière d'en haut, nous dit l'abbé André Blais, curé de Saint-Ambroise. Seule la foi, qui est une lumière d'en haut, perçoit le mystère de cet enfant qui est né à Bethléem entouré de sa mère Marie et de son père Joseph. Et selon les coutumes juives, bien le père légal avait les mêmes droits et devoirs que le père géniteur. Et pour les juifs, Joseph était le père de Jésus, car il est père légal. L'évangile de Saint-Luc se termine de façon absolument admirable. Il se termine par les paroles des disciples d'Emmaüs après le départ de Jésus. Et ils disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et oui, quand Jésus nous accompagne dans la lecture des Écritures, notre cœur devient tout brûlant. Et quand on lit les récits de l'enfance et qui sont rejetés par bien des gens, on est surpris de quand on les lit avec son cœur, profondément. Car pour les premiers chrétiens, l'enfance du Christ paraissait scandaleuse comme sa passion, hein, parce qu'il était né très pauvre, semble-t-il. Et Luc a su assumer tout ça avec une profondeur géniale, nous rapporte l'abbé Laurentin dans cet immense ouvrage sur les évangiles de l'enfance du Christ paru chez Desclée, ou chez Desclée de Brouwer aussi. C'est un immense volume qui nous explique bien des choses au sujet de cette portions de l'Évangile, les deux premiers chapitres de Saint-Luc, qui peuvent nous inquiéter, mais d'autres chapitres ne nous inquiètent pas du tout. Quand il nous rappelle, oh, c'est au chapitre 10, le récit qu'a fait Jésus du bon Samaritain, je vous en fais la lecture tellement c'est beau. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'embarrasser, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Qu'est-ce que tu y lis ?» Il répondit, « Bien, ce que j'y lis, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Alors Jésus lui dit, « C'est une excellente réponse. » Tu n'as qu'à faire cela et tu vivras. Mais le docteur de la loi réplique parce qu'il veut se justifier. Il demande, qui donc est mon prochain? Et Jésus continue, alors il lui raconte une histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui l'ont dépouillé, l'ont roué du cou, et l'ont abandonné à demi-mort. Un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, le vit et continua sa route. De même, un lévite survenant à cet endroit le vit et continua sa route. Vous savez que dans le texte véritable, c'est pas « il continua sa route », il passa par-dessus. C'est terrible. il passa par-dessus. C'est le vrai texte. Hein. On trouve ça dans cet immense bouquin publié par les éditions de l'Œil. C'est la traduction des notes de Claude Trémontant. C'est très, très intéressant à lire cette traduction parce qu'elle nous fait voir le texte d'une autre façon, peut-être, en plus profondeur. Bon, ben, je vous lis la traduction habituelle. De même, un Lévite survenant cet endroit le vit et continua sa route. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et il fut touché de pitié, dit Jésus. Il s'approcha, il banda ses plaies. Et après avoir mis de l'huile et du vin, le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, ce qui était une somme raisonnable, il tira 2 deniers de sa bourse, donna l'argent à l'hôte et lui dit, « Soigne le bien, et tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rembourserai à mon retour. » Et Jésus termine en disant, « Quel est, à ton avis, celui des trois qui s'est montré le prochain de l'homme tombé au milieu des brigands ?» Alors le docteur de la loi répondit, « Celui qui a eu pitié de lui. » Qu'est-ce que lui dit Jésus? C'est très simple. Et il nous le dit à chacun d'entre nous. Va et toi aussi fais de même. Va et toi aussi fais de même. Ça me rappelle une anecdote racontée par Xavier de Chalandard dans Apprendre à lire l'Évangile. C'est un peu terrible. À la télé, pour Noël 1975, raconte Xavier de Chalandard à la page 89, on a présenté ce couple d'étrangers qui cherchaient une chambre pour quelques nuits. On le présentait à la télé. Ils cherchaient une chambre pour quelques nuits. Ils n'allaient quand même pas passer dehors la nuit de Noël. Et ils ont été conduits par tous les bons chrétiens qui se rendaient à la messe de minuit, mais ils ont été hébergés par des travailleurs migrants musulmans. C'est de quoi faire réfléchir, dit Xavier de Chalandard. Moi, j'ajouterais que les musulmans ne célébrant pas Noël et n'allant pas à la messe à l'église, se sentaient peut-être plus libres. Mais ça nous montre que des migrants, les travailleurs humbles, petits, les migrants, c'est ça des travailleurs musulmans qui ont laissé leurs femmes et leurs enfants dans le Maghreb, en Afrique du Nord. Eh bien, ils ont du cœur. Ils savent aider les autres, et nous aussi, nous savons aider les autres, mais dans une occasion comme celle-là, peut-être, les catholiques étaient saisis par leurs obligations. J'aimerais vous signaler, avant de terminer, que dans un livre, c'est amusant savoir à quel saint se vouer, publié récemment chez Plon et chez MAM, c'est 1000 saints, leur histoire et les prières pour faire face aux difficultés de la vie. On rapporte que Saint Luc, qui est ce grand évangéliste, dit le texte ici, que les prières à Saint Luc l'évangéliste auraient une grande efficacité pour combattre l'impuissance. Ce médecin d'Antioche fêté le 18 octobre est devenu, dit le texte, collaborateur de saint Paul, il est l'auteur du 3e évangile et des actes des apôtres, et bien que son intercession soit très agissante, il ne faut pas en attendre un résultat instantané. Aussi est-il conseillé de lui adresser des invocations pendant plusieurs jours avant de songer à en vérifier l'effet. Saint Luc est le patron des sculpteurs et des chirurgiens. Chirurgiens, les médecins et les chirurgiens. Mais je ne saurais terminer sans vous faire part de quelques réflexions de Jean Guiton dans un très beau livre, Le Nouveau Testament, une nouvelle lecture. Il dit, en terminant, « On voit assez quel trésor contient ce Nouveau Testament, le plus menu, le plus fécond de tous les ouvrages de l'Esprit. Depuis 20 siècles, la pensée humaine se penche sur ces versets, comme ceux que je viens de vous lire, afin d'en recueillir la substance. » Qui pourrait soutenir que cette analyse est achevée? Les théologiens ont traduit dans une langue abstraite les vérités contenues dans ces pages. Et qui pourrait soutenir que leur analyse équivaut à la simplicité originelle? Mais non, c'est vrai, hein? Quand on lit les textes, on est bouleversé. Et il ajoute, les auteurs de vie de Jésus tentent de ressaisir sous un éclairage nouveau l'unité de cette vie inimitable. Ils y ont ajouté ces derniers temps des détails tirés de l'histoire et de l'exploration des sites. Mais qui n'a pas senti qu'on tirait plus de vérité dans la lecture solitaire, dans la comparaison silencieuse? Y a-t-il eu un mystique plus grand que saint Paul, qui pourtant n'avait eu que de rares expériences auxquelles il préférait la charité, ou que saint Jean, qui ne semble avoir connu d'autre extase qu'un repos plein de réflexion près du cœur de son maître? C'est donc à chacun de nous de reprendre le Nouveau Testament et de tenter de faire par nous-mêmes une synthèse. Et c'est en lisant vraiment dans le texte le Nouveau Testament qu'on est bouleversé. Et c'est en lisant les passages de l'Évangile de Saint-Luc et des Actes des Apôtres qu'on arrive à être profondément touché, vraiment profondément touché. Comme l'histoire du bon samaritain que je vous ai lu, un des textes les plus connus de l'Évangile. Mais plus on l'écoute, plus on l'entend, plus on s'aperçoit que les paroles de Jésus, comme « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Tout l'Évangile est là. Aimons-nous Jésus dans notre prochain. Pour lire Saint-Luc, avec beaucoup d'intelligence, on peut se référer à ce bel ouvrage « Jésus et son message selon Luc » par Georges Convert, que vous entendez souvent à Radio Ville-Marie, c'est publié aux éditions Saint-Paul. C'est une traduction de l'Évangile avec de brefs commentaires qui sont de toute beauté et d'une grande richesse. « Tout ce que tu fais au plus petit des miens, c'est à moi que tu le fais. Et si tu touches à l'un des membres de ma famille, si tu touches à l'un de mes amis, c'est comme si tu me touchais, moi. » C'est ce que dit Georges Convert, que tout ce qu'on fait. Et il a un langage très concret dans son livre « Jésus et son message selon Saint-Luc ». Prions aujourd'hui Saint-Luc avec l'Église en allant à l'Église, à la messe, célébrer ce grand événement